de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, bonsoir. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes tels que le journal, le coin diplomatique et d'autres infos, à savoir l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, les magazines culturels, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Bon, cher Jolitar, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
C'est Zeritak, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. Le président encourage les agriculteurs à utiliser des engrais organiques locaux. L'Indonésie a remonté à la 149e place du classement FIFA. Le ministère de la Communication et de l'Informatique prépare ASEANpedia pour que le public fasse connaissance avec l'ASEAN 2023. Xi Jinping et Macron se sont rencontrés et ont promis de surmonter leurs divergences. Des envoyés iraniens et saoudiens se rencontrent en Chine pour rétablir les relations diplomatiques. Des colons israéliens prennent d'assaut la mosquée Al-Aqsa. Le bureau de langue NTB enseigne l'indonésien aux locuteurs étrangers. Voici le journal complet. Le président Joko Widodo a encouragé les riziculteurs à utiliser des engrais organiques locaux pour réduire la dépendance aux engrais chimiques et réduire le coût. Cela a été transmis par le président dans son communiqué de presse après avoir planté du riz avec des agriculteurs à Tuban dans l'est de Java jeudi. Le président a déclaré que les agriculteurs de Tuban avaient planté 1000 hectares de terre avec des engrais organiques locaux au cours des trois dernières années et ont pu réduire les coûts de production. Selon le président, si cela est développé dans d'autres régions, comme le fait l'Union des agriculteurs indonésiens, cela réduira considérablement les coûts de la dépense aux engrais chimiques. Le président a apprécié ce que l'Union des agriculteurs indonésiens a commencé en utilisant des engrais organiques locaux au milieu de la difficulté à obtenir des engrais du monde. La Fédération mondiale de football, FIFA, a publié le dernier classement jeudi, de bonnes nouvelles émergentes pour l'Indonésie, car il est confirmé qu'elle est classée 149e au monde. D'après le site officiel de la FIFA, l'Indonésie est classée 149e en collectant 1046,14 points. L'Indonésie a gagné 12,24 points après deux matchs de la FIFA la semaine dernière. L'augmentation du classement de l'Indonésie a été influencée par des résultats positifs contre l'équipe africaine, le Burundi, à l'ordre du jour de matchs de la FIFA en mars. L'équipe de Garuda a joué deux matchs contre le Burundi à la fin du mois dernier. Les premières, deuxième et troisième places ont été occupées par l'Argentine, la France et le Brésil. Le ministère de la Communication et de l'Informatique, Kemenkominfo, prépare ASEANpedia pour que la communauté au sens large puisse en savoir plus sur la mise en œuvre et le leadership de l'Indonésie au sein de l'ASEAN en 2023. C'est ce qu'a déclaré le directeur général de l'information et de la communication publique du ministère de la communication et de l'informatique, Ousmane Kansong, lorsqu'il a été contacté par Antara jeudi. Ousmane a déclaré que la CNPDA était préparée en deux langues, à savoir l'indonésien et l'anglais. Ainsi, plus tard, il fournirait non seulement des informations intéressantes aux Indonésiens, mais pour également toucher davantage des personnes de l'étranger. Actuellement, le ministère de la Communication et de l'Informatique gère le site web officiel ASEAN2023.id comme l'une des étapes pour fournir des informations sur la mise en œuvre de l'ASEAN 2023. Le président chinois Xi Jinping a reçu une visite d'État du président français Emmanuel Macron au Grand Palais du Peuple à Pékin jeudi après-midi pour discuter des problèmes mondiaux et régionaux émergents. Au cours de la réunion, les deux chefs d'État ont promis de surmonter les divergences et les obstacles pour maintenir la stabilité d'un partenariat stratégique global mutuellement bénéfique et la prospérité mondiale. C'est selon le ministère des Affaires étrangères de Chine, cité par Antara. Le président Xi a déclaré que les deux pays avaient réussi à maintenir l'élan de progrès de la coopération bilatérale malgré le paysage international changeant et instable au cours des trois dernières années. Le ministère chinois des Affaires étrangères a noté que la visite de Macron serait un nouvel élan et une nouvelle énergie dans les relations Chine-Europe. Les ministres des Affaires étrangères de l'Iran et de l'Arabie Saoudite se sont rencontrés jeudi à Pékin pour la première réunion officielle en plus de 7 ans après que la Chine a négocié un accord pour rétablir les liens entre les principales puissances régionales. Dans de brèves images diffusées sur la télévision d'État iranienne, citée par Reuters, le prince Faisal bin Farhan Al Saud et son homologue iranien Hossein Amir Abdollahian se saluent avant de s'asseoir côte à côte. L'Arabie Saoudite et l'Iran ont déclaré dans un communiqué conjoint qu'ils prendraient des dispositions pour rouvrir les ambassades et les consulats dans le délai de 2 mois prévu dans l'accord. Jeudi, des colons israéliens sont entrés par effraction dans le complexe de la mosquée Al-Aqsa à Jérusalem, je veux dire à Jérusalem-Est occupé. Selon des témoins oculaires, la police était déployée dans la cour du complexe de la mosquée pour sécuriser les colons. L'agence de presse Anadolu a rapporté qu'un certain nombre de groupes de colons extrémistes israéliens ont appelé à une attaque contre le complexe de la mosquée Al-Aqsa pour marquer la semaine de vacances juives de Pâques qui a commencé le 5 avril. Les autorités israéliennes ont commencé à empêcher les Palestiniens âgés de 40 ans et moins d'entrer dans la mosquée avant les prières du matin. Cette décision a été accueillie par des centaines de jeunes Palestiniens qui ont effectué la prière du matin dans les rues près de la mosquée. Le bureau des langues de la province de Nusa Tenggara West coopère avec un certain nombre d'universités dans ce domaine pour enseigner l'indonésien aux locuteurs étrangers afin d'internationaliser l'indonésien. Les universités participantes comprennent l'Université Muhammadiyah, l'Université Hamzanwadi, l'Université Bumigora et les écoles naturelles. C'est ce qu'a déclaré jeudi le chef du bureau des langues de la province de Nusa Tenggara West, Puji Retno Hardining Tias, à Mataram, cité par Antara. Puji a déclaré que sa partie travaille également avec la filière des professeurs de langue indonésienne et des militants pour les locuteurs étrangers, APPBIPA, car ce programme est conforme à la mission de la APPBIPA, qui est de rendre digne l'indonésien et de présenter la langue et la culture indonésienne aux étrangers. Sejurita, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta.
Chers auditeurs et auditeurs, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'accueil diplomatique intitulée « Ambassade d'Indonésie à Moscou commémore 73 ans de relations diplomatiques en organisant une soirée culturelle ». Vous êtes avec moi, Audrey. Chers auditeurs, l'ambassade d'Indonésie à Moscou, en collaboration avec le Centre Asian Institute d'État des Relations Internationales de Moscou, MGIMO, a organisé une soirée culturelle Journée de l'Indonésie, vendredi 31 mars, pour commémorer 73 ans de relations diplomatiques entre l'Indonésie et la Russie. Le communiqué de presse reçu par l'ambassade d'Indonésie à Moscou mardi 4 avril indique que l'ambassadeur d'Indonésie auprès de la Fédération de Russie et de la République de Biélorussie, José Tavares, a déclaré dans ses remarques l'importance de la culture dans le renforcement des relations entre les peuples et nations. Selon lui, les groupes artistiques assistés par l'ambassade d'Indonésie à Moscou, à savoir Kirana Nusantara Dance et Gamelan Tadali, dont la majorité des membres sont des citoyens russes, sont la preuve du succès des arts et de la culture dans le rapprochement des relations internationales. Il a également invité pendant 1h30 70 spectateurs ont eu droit à des performances des danses giring-giring du Kalimantan central, Jatilan du Java central et Topeng Irang de Magelang, qui ont été agiles par des danseurs d'Indonésie et de Russie, membres de la danse Kirana Nusantara. De plus, 10 musiciens de gamelan, citoyens russes et membres du Dadali Gamelan Studio dirigé par Trikoyo ont interprété harmonieusement les chansons Ladrang Sigra Mangsa, Emple Emple Ketepu, Ketawang Subo Kastowo, Lagu Pepeling et Waru Doyong, tandis que les étudiants indonésiens John Silver Soplanit a interprété mélodieusement l'Ascension Warisan Indonesia et Rasa Sayangi. La directrice du centre de l'ASEAN, Ekaterina Koldunova, a exprimé sa gratitude pour la tenue de cette soirée culturelle. Selon elle, le campus de l'université MGIMO est toujours ouvert pour présenter divers spectacles artistiques et culturels indonésiens. Elle espère même que l'ambassade d'Indonésie pourra y organiser un festival du film indonésien. Outre les arts culturels, des dizaines de photographies documentaires des 73 années de relations diplomatiques entre l'Indonésie et la Russie ont également été exposées à l'Atrium MGIMO. Cette soirée culturelle indonésienne clôturait l'activité Journée de l'Indonésie au MGIMO. La précédente série de commémorations de 73 ans de relations diplomatiques entre l'Indonésie et la Russie a également été remplie d'une table ronde intitulée Russie-Indonésie, la voie vers un avenir meilleur, de manière hybride. Lors de cette session, un certain nombre d'orateurs étaient présents, dont le gouverneur de l'Institut de défense nationale, Andy Wijayanto, l'ambassadeur d'Indonésie à Moscou, l'ambassadeur de Russie à Jakarta, le vice-chancelier du MGIMO, des responsables du centre de l'ASEAN, des responsables de l'ambassade d'Indonésie à Moscou et indonésiens russes. L'université MGIMO, qui est sous les auspices du ministère des Affaires étrangères de la Fédération de Russie, est classée 362 dans le classement mondial des universités QS 2022. Cet institut propose 112 programmes menant à un diplôme dans 17 domaines d'études en relations internationales. Études sur les zones étrangères, politique, sciences, droit, économie, journalisme, publicité et relations publiques, gestion, administration, étatique et municipale, informatique, de gestion, commerce, tourisme, pédagogie, psychologie, sociologie, linguistique, écologie et gestion des ressources naturelles. Bon, chers auditeurs, c'est tout. L'accueil diplomatique.
Bonjour, bonsoir, chers amis. Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Voici l'histoire aujourd'hui. Le 7 avril 1906, l'éruption du mont Vésuve. Le Vésuve est le seul volcan actif d'Europe continentale. Le Vésuve est situé à l'est de Naples, en Italie. Cette montagne est entrée en éruption le 7 avril 1906 et a détruit la ville de Naples. Cette montagne est entrée en éruption plusieurs fois et est actuellement considérée comme l'un des volcans les plus dangereux dans le monde en raison de la population de 3 millions de personnes vivant à proximité et de leur tendance à vivre vers les explosions. Le 7 avril 1947 est la fondation du Parti Bas à Damas. Le Parti Bas se compose de plusieurs partis politiques qui représentent le côté politique du mouvement Bas. Initialement, le Parti Bas fonctionnait comme un parti pan-arabe avec des branches dans plusieurs pays arabes. En 1996, le parti s'est scindé en deux. Une branche basée en Syrie et une en Irak. Les deux partis bas ont des structures parallèles dans le monde arabe. Le parti bas est arrivé au pouvoir en Syrie le 8 mars 1963 et reste influent aujourd'hui. Les basistes ont occupé le pouvoir en Irak de février 1968 jusqu'en 2003. Après l'éviction de Saddam Hussein lors de la guerre en Irak de 2003, le gouvernement irakien a interdit le Parti Bas en juillet 2003. Le 7 avril est la Journée mondiale de la santé. La Journée mondiale de la santé est célébrée dans le monde entier dans le but de rappeler à la communauté mondiale l'importance de la santé. L'établissement du 7 avril comme Journée de la santé est la date de la fondation de l'Organisation mondiale de la santé le 7 avril 1948. À l'origine, l'OMS a déclaré que la Journée mondiale de la santé devait être commémorée le 22 juillet, mais a ensuite été remplacée par le 7 avril pour marquer la fondation de l'organisation. La commémoration de la Journée de la santé a commencé en 1950 avec un thème différent chaque année. Le thème de la Journée de la santé 2023 est « La santé pour tous ». Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui de la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta.
Indahnya awal kita bertatap mata, ku menyapamu di seberang sana. Gundah gelisah seakan terlupa, tawa candamu mengalihkan semua getaran ini terasa nyata. Apakah kau juga merasa kau dan aku bersama mencari arti dunia? terkadang kau tangisi. Jangan kau pendam di dalam hati. Maaf semua takkan ku ulang lagi. Indah rasanya senyummu kembali. Getaran ini terasa nyata. Apakah kau juga merasa kau dan aku bersama mencari arti dunia? Kau yang terindah yang membuatku bahagia. Kau dan aku bersama mencari arti.
Chers auditeurs, c'était la première chanson indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, d'Indonésie au monde. Et voici donc mon Indonésie.
Cédric, bonsoir. Voici mon Indonésie. Donc le titre est « Le gouvernement encourage les maisons BUMN à pénétrer le marché d'exportation via TMS 2023 ». Le ministre des Entreprises d'État, BUMN, Erick Thohir, a encouragé et soutenu les micro, petites et moyennes entreprises, MPME, par l'intermédiaire de rumah BUMN ou les maisons des entreprises d'État, pour pénétrer le marché d'exportation lors de l'exposition 2023 Trade Mission Singapore TMS OS Mall Singapore du 3 au 9 avril 2023. Trade Mission Singapore 2023 est une exposition d'artisanat et de produits indonésiens. En plus d'être un moyen de promotion et de vente pour les artisans, cette exposition est également un lieu d'interaction et d'échange d'informations sur les tendances des produits et vise à rendre les produits des petites et moyennes entreprises indonésiennes capables de pénétrer le marché d'exportation. Dans une déclaration officielle reçue par Antara mercredi 5 avril, le personnel spécial du ministre des Entreprises publiques, Arya Sinulinga, a déclaré que l'événement de la mission commerciale Singapour 2023 est assez important car il offre un espace aux MPME assistées par les entreprises publiques pour présenter leurs produits de qualité supérieure ainsi que le précurseur de l'augmentation de leur capacité à atteindre le marché d'exportation. Arya a expliqué que l'événement TMS 2023 était en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie indonésienne qui a présenté 28 MPME assistées par 11 entreprises publiques. Les entreprises publiques participant à cet événement comprenaient des banques publiques, Pertamina Société Anonyme, Telecom Indonesia TBK Société Anonyme, Pupuk Indonesia Persero Société Anonyme, Perusahaan Listrik Negara Persero Société Anonyme, Perkebunan Nusantara 4 Société Anonyme, Angkasa Pura 2 Société Anonyme et Indonesia Asan Aluminium Société Anonyme et Perum Peruri. Ce programme de collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie indonésienne, CADIN, deviendra plus tard un tremplin pour les MPME avec des produits sélectionnés vendus à Singapour pour stimuler les ventes à l'étranger. Arya a expliqué qu'en termes de curation, Les entreprises sous les auspices de Cardin Indonesia Trading House verront dans quelle mesure le produit est prêt pour l'exportation. Les actes commerciaux passeront par un processus de curation avancé et recevront une formation comprenant la préparation des diverses exigences d'exportation afin qu'elles soient acceptées par les pays de destination. Des produits vendus dans le bazar sont des aliments transformés, des épices à base de plantes, des produits de l'économie créative aux aliments surgelés. Ariel Situlinga a souligné que la participation de Kuma BUMN à l'exposition de la mission commerciale de Singapour 2023 était une manifestation concrète de soutien du ministre de BUMN aux efforts visant à développer les MPME assistés par BUMN qui ont organisé de manière agressive diverses expositions pour introduire des produits indonésiens de qualité sur le marché mondial. Ces auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Voilà, c'était la deuxième chanson indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter le magazine culturel. Bonjour à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour le magazine culturel intitulé Mosquée Bengkulu Al-Ikhlas. Vous êtes avec moi Audrey. Chers auditeurs, cette fois je vais vous présenter le tourisme religieux. Nous vous présentons l'une des mosquées de Bengkulu. Son nom est la Mosquée Al-Ikhlas, la plus ancienne mosquée de la province de Bengkulu. La mosquée a été construite en 1800 par Haji Mansur de l'ouest de Sumatra. Parce qu'il s'agit de la plus ancienne mosquée, la mosquée Al-Ikhlas a été érigée en patrimoine culturel par le gouvernement de Bengkulu. Cette mosquée est située dans le village de Padang Betua, au Bengkulu central. Depuis la fondation de la mosquée Al-Ikhlas en 1800, Bengkulu a été frappé à plusieurs reprises par des tremblements de terre. Mais, étrangement, la mosquée n'a pas subi le moindre dommage. C'est parce que le bâtiment de la mosquée est assez unique. Les piliers soutenant la mosquée en bois sont disposés sans interruption mais reliés les uns aux autres. L'utilisation de clous n'est pas dominante, mais utilise plutôt des chevilles en bois. De plus, les murs de la mosquée sont en ciment, mais l'intérieur des murs n'est pas rempli de briques mais de bambou. On connaît bidaï. Le bambou a d'abord été fendu et brisé en morceaux. Ensuite, une fois les bâtons de bambou disposés, ils sont recouverts de ciment. C'est le secret pour lequel la mosquée est toujours solide et pas endommagée par le tremblement de terre. Selon le récit de l'imam du village local, cette mosquée est une relique du royaume Sungai Limau. Initialement réalisée, les murs de la mosquée étaient en bois tandis que le toit était un roseau sec. Au fil du temps, les villageois ont commencé à ajouter un certain nombre de piliers de soutien et à donner le sol, tandis que le toit a été remplacé par des feuilles de chaume. Vers 1985, les villageois locaux ont accepté de construire une nouvelle mosquée, car cette ancienne mosquée ne pouvait pas accueillir tous les habitants du village de Padang Betua, en particulier pour les prières d'Id ou les vacances. La mosquée Al-Ikhlas était à l'origine utilisée comme centre de propagation de l'islam et lieu de rassemblement pour expulser les envahisseurs, puis peu à peu utilisée comme lieu de culte. Actuellement, la plus ancienne mosquée de Bengkulu n'est plus utilisée pour les prières de la communauté villageoise, en raison de sa petite taille, environ 6 pour 6 mètres. La communauté a construit une plus grande mosquée. Cependant, l'ancienne mosquée n'est utilisée que par les enfants pour étudier le Coran. Bon, chers auditeurs, c'est tout le magazine culturel.
Semalam tiba-tiba kamu menelponku, katakan sangat dalam kau rindukan aku. Dan tadi pagi-pagi kamu menghampiri, kau bilang ingin bertemu karena terlalu rindu, dan kau memelukku. Kurasaku kini jatuh cinta lagi padamu kekasih, berulang kali. Ku ingin kau tahu kau amat berarti, tak ada yang lain dalam hidupku. Saat kau menatapku, aku pun tersipu. Kau bisikan ingin selalu ada di dekatku. Kau genggam jemariku. Kurasaku kini jatuh cinta lagi padamu kekasih, berulang kali. Ku ingin kau tahu kau amat berarti, tak ada yang lain dalam hidupku.
Serge Ritard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute.
Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'émission de l'Indonésie en couleur, intitulée « Barunastra ITS défend le champion du monde pour la cinquième fois ». Vous êtes avec moi Audrey. Serge Ritard, l'équipe Barunastra de l'Institut Technologie de 10 November, ITS, a de nouveau fait la fierté de l'Indonésie sur la scène internationale. Le bateau robot phare de l'ITS ou l'équipe de RoboBoat a de nouveau défendu avec succès son titre de première place pour la cinquième fois au prestigieux International Robobot Competition IRC 2023 à Sarasota, en Floride, aux États-Unis, transportant le plus récent navire nommé Nala Proteus. L'équipe ITS Barun Astra a remporté deux prix à la fois. Le prix est grand champion, first place et second place Design Documentation International Robobot Competition 2023. Barun Astra ITS a remporté ce prix après avoir concouru avec 24 équipes de différents pays du monde, battant même le célèbre Campus Technology Massachusetts Institute of Technology, MIT, États-Unis. Il y a différentes étapes auxquelles Barun Astra doit faire face dans la catégorie documentation de conception. Plusieurs étapes doivent être franchies, à savoir le rapport de conception, la vidéo d'équipe et la présentation hors ligne devant les juges locaux. Dans cette présentation hors ligne, les participants ont été invités à expliquer diverses choses concernant les robobots qui seraient contestées plus tard, à partir de la stratégie de réalisation de la conception utilisée, de la méthode de fabrication et de fonctionnement du navire qui serait contesté. L'un des membres de l'équipe a déclaré Ryan, dans les trois étapes, les concurrents ont reçu 8 missions et pour passer le tour des qualifications, ils devaient accomplir au moins 3 missions. Après avoir passé le tour des qualifications, les participants qui réussissent subiront une évaluation avec le système de classement pour pouvoir passer au tour suivant. Le même système de notation et les mêmes missions sont également appliquées lors du tour final, mais avec un système plus strict. Bon, chers auditeurs, c'est tout. L'Indonésie en couleur.
Voice of Indonesia.
Apa yang terjadi semalam? Aku tak mampu untuk lupakan kamu. Membuat diri ini du'adu di mabuk kepayang.
Cantik, kau cantik tiada dua. Menarik, membuatku terhipnotis kamu. Membuat raga ini du'adu dulu hati ini.
Kau memang menarik semua untuk tertuju padamu seorang. Kau
Georges Letard, c'était l'autre belle chanson indonésienne. Et vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Et maintenant, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Chers auditeurs solidaires, bonsoir. Vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie au monde, avec moi Audrey. Ce soir, dans la rubrique magazine musical, je vais vous présenter une chanson de Rote, Nusa Tenggara Oriental, intitulée Mana Lolo Banda. Chers auditeurs, certains interprètent Mana Lolo Banda comme Je suis un vacher. La chanson Mana Lolo Banda parle d'un vacher toujours heureux. Cette chanson contient également un message pour toujours être ferme et confiant dans la réalisation des rêves et des objectifs. Mon cher Jeter, voici Technique Sipil UNC va chanter une chanson intitulée Mana Lolo Banda. Bonne écoute.
Aua iya, mana lolo banda, aua soda elelelele. Aua iya, mana lolo banda, aua soda elelelele.
Aua iya, mana lolo banda, aua soda elelelelele.
Yeah!
Bonjour Gétard, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @voiindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia et regardez sur notre YouTube Voice Indonesia. Pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.